Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Chères auditrices et chers auditeurs de Radio Alliance Plus, bonjour, bienvenue pour notre émission où nous terminons aujourd'hui la deuxième partie de la conférence donnée par Céline Romer lors de la cinquième pastorale nationale de l'Amicale des pasteurs à la retraite qui s'est tenue au centre du Lazaret à Sète entre le 13 et le 16 mai dernier. Le titre général en était « Dans le chaos du monde, discerner un avenir en commun ». Et Céline Romer, maître de conférence à l'Institut protestant de théologie de Montpellier, nous a entretenu sur le titre « L'espérance en temps de crise » avec comme appui des textes de l'apôtre Paul, notamment le texte de l'apôtre Paul aux Romains. Et c'est d'ailleurs ce texte que vous entendrez directement dans la deuxième partie donc, qui a été donnée la semaine dernière. Vous entendrez donc la fin de la conférence et puis je vous proposerai un temps de chant pour notre pause musicale et nous nous retrouvons juste après, près la fin de cette émission.
Chapitre 8, verset 18. J'estime en effet que les souffrances du moment présent sont de peu de poids en regard de la gloire qui doit être révélée en nous. La création est en effet tendue dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. La création a en effet été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais par celui qui l'y a soumise, dans l'espérance qu'elle-même aussi la création sera libérée de l'esclavage de la corruption pour la liberté qui est la gloire des enfants de Dieu. Nous savons en effet que la création entière gémit, maintenant encore, dans les douleurs de l'enfantement. Alors, on ne va pas épuiser ce passage de l'Épître aux Romains. Bien évidemment, je n'ai pas cette prétention-là, j'en serais bien incapable, mais quand même deux, trois choses qu'on pourrait souligner, qui pourraient nourrir nos débats. D'abord, verset 18, je note que Paul affirme qu'il y a bien une gloire qui est à venir. C'est une affirmation. La gloire finale est sans commune mesure avec les souffrances actuelles. Il y a une tension temporelle entre la situation présente et la situation à venir. Nous sommes en attente de la révélation de la gloire finale, pleine et entière, qui se fera en nous, écrit Paul, alors que ce « nous » est pris maintenant dans les souffrances. Souffrance et gloire future sont inséparables, commentait Franz Lennart. Parce que, disait-il, parce que le présent n'est qu'un état de transition en vue de l'avenir, le visible, une anticipation de l'invisible. Fin de citation. C'est une ligne apocalyptique, si vous voulez le dire autrement, c'est une ligne apocalyptique tenue par d'autres, mais il faut bien voir que Paul, comparé à ses contemporains apocalypticiens, est d'une grande sobriété ici, c'est pas son trait de tempérament sans doute le plus marquant, mais ici il est très sobre. Il dit la gloire à venir. Il l'affirme, mais vous notez au passage qu'il n'en donne aucune représentation. Il ne pose pas d'image sur cette gloire à venir. On n'a pas de scénario, on n'a pas d'histoire. Et encore moins un calendrier. Paul focalise toute l'attention sur le présent et sur les gémissements du présent. Donc c'est sur le présent que Paul s'attarde. À nouveau, je répète, l'espérance apparaît ici, non pas d'abord pour dire quelque chose du futur, mais pour clarifier notre compréhension d'un présent promis à un futur conduit par Dieu, qui mène à Dieu. Hein, le langage de l'espérance est utilisé pour dire le présent. C'est le langage de l'attente qui dit quelque chose du futur. Verset 23. L'espérance est toujours, chez Paul, distincte de l'attente. L'espérance, elle dit comment j'attends. L'attente dit ce que j'espère. Et il ne s'agit pas pour Paul de consoler des souffrances présentes, encore moins de les nier. Il s'agit de comprendre que la consolation ne vient pas de nous. Je reprends un extrait du commentaire de Karl Barth. Vous voyez que j'ai l'esprit large. Je cite. Oui, je savais que ça... Je savais que j'aurais pas dû le dire. Tant pis, j'assume. J'ouvre les guillemets. C'est du Karl Barth. Pour trouver une consolation, il faut par conséquent que nous commencions par discerner que nous ne possédons aucune consolation. Et pour apporter une consolation, il faut que nous commencions par discerner et que nous confessions que nous sommes tous ensemble d'exécrables consolateurs. Fin de citation. C'est exactement le passage, enfin, c'est dans son commentaire de l'Épître aux Romains, la dernière version, sur ce passage-là. Nous ne possédons aucune consolation et nous sommes tous ensemble d'exécrables consolateurs. Il y a d'abord, versets 19 à 22, les gémissements de la création. Vous voyez ça quand même. Il faut le rappeler. C'est chez Paul. C'est d'abord la création qui est concernée par cette attente. La création attend la révélation de la gloire des fils de Dieu, alors elle sera libérée de l'esclavage de la corruption, ou l'esclavage qui est la corruption. Elle sera libérée de cela pour la liberté qui est la gloire des enfants de Dieu. Autrement dit, l'horizon est une liberté qui est une participation à la gloire divine, une liberté où la gloire de Dieu se manifestera dans l'achèvement de la nouvelle créature, dans la nouvelle création. La création et l'être humain sont liés. Ils sont promis ensemble au monde nouveau. Il s'agit d'un des seuls textes du Nouveau Testament où s'exprime si clairement la solidarité entre la création et l'humanité. Cette affirmation fait de l'espérance paulinienne une espérance résolument universelle. L'universalisme de l'évangile paulinien fait que le contenu de l'espérance ne peut évidemment pas être le privilège d'une communauté distincte de la création tout entière. Et Paul déploie ici, et pour la première fois, l'universalisme de l'espérance chrétienne. Qui a soumis la création à la vanité, du verset 20, qui a soumis la création à la vanité? Alors là, c'était un immense débat dans lequel je n'entrerai pas. De toute façon, parce que nous ne le résoudrons pas et que nous ne serons pas d'accord. Donc laissons-le de côté. Non pas pour le tuer, mais pour le laisser vivant. Plus important pour nous, me semble-t-il, ce matin, c'est que cette soumission de la création s'est faite dans l'espérance, sur la base de l'espérance, et que la création sera elle aussi libérée. Et voilà pourquoi, pour Paul, il y a urgence à porter l'évangile à chaque individu, parce que la création tout entière est impatiente, elle n'en peut plus, cette création. Elle est impatiente de recevoir la révélation que transmettent les fils de Dieu de la communauté croyante. À cette impatience doit correspondre l'urgence apostolique à proclamer cet évangile. Voyez notre responsabilité. La bonne nouvelle de la justice justifiante et inconditionnelle de Dieu, la création en a besoin, elle s'impatiente de la recevoir. La création gémit, d'abord elle. C'est d'abord la création qui gémit. Alors je lis la suite, je suis toujours dans le chapitre 8, et je lis simplement versets 23 à 25. Donc vous avez compris au départ, alors là vous l'avez déjà le texte, donc là c'est la création. Et puis ensuite Paul enchaîne. Or, pas seulement elle, c'est-à-dire pas seulement la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous gémissons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. C'est en effet pour l'espérance que nous sommes sauvés. Or, une espérance vue, ce n'est pas une espérance. Qui espère ce qu'en effet il voit? Or, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voyez que nos gémissements, nos souffrances sont le point commun entre la création et nous. Voyez qu'avec Paul, il ne fait pas sens de réfléchir l'espérance humaine en dehors de celle de la création. Nous avons les prémices de l'esprit, écrit-il verset 23. L'esprit est en nous l'anticipation d'un monde nouveau, la réalité de ce qui doit venir. Nous avons ces prémices-là. Il y a tout ça dans le mot prémices, une partie du tout est déjà là, et cette partie est la certitude du tout. Donc, il y a à la fois anticipation et garantie de l'esprit. Ce n'est pas qu'on n'a eu qu'un bout de l'esprit et qu'on regrette de ne pas avoir tout, c'est qu'on a reçu la certitude de l'avoir tout entier. Et nous voilà en attente de l'adoption, écrit-il au verset 23. Donc, en attente de la filiation, de la délivrance de notre corps. Cette image, elle dit simplement l'inadéquation, la non-conformité entre notre condition naturelle et notre condition comprise comme existence en Christ. Il ne s'agit pas de dire que la mort libère, c'est évidemment pas ça, selon moi, et selon beaucoup d'autres. Il s'agit de dire que l'action de Dieu donne un statut nouveau à notre existence. Cette adoption, c'est la rédemption du corps, c'est-à-dire l'accomplissement de l'identité entre le Christ et le sujet croyant. C'est ça la révélation du Fils de Dieu. Paul dit ici l'adoption au futur. Il dit les prémices de l'esprit, parce que dans ces versets, il met l'accent sur l'inaccompli de l'espérance. Souvenez-vous, l'espérance est à la fois à voir avec le passé, le présent, mais aussi le futur. Et là, il l'envisage plutôt du côté du futur. C'est pour l'espérance que nous sommes sauvés. L'événement de la révélation ouvre la voie d'un salut fait d'espérance. Et nous sommes sauvés pour en vivre, et nous en vivons par l'espérance. Trois courtes remarques ici. D'abord, que cette espérance est au-delà de toute prévision. L'espérance se dit en termes d'ouverture à autre chose que soi, à autre chose que ce qui est là et de ce qui se voit. C'est la différence avec l'espoir, qui lui se fonde toujours sur ce qu'il voit. Notre espérance à nous ne se confond pas avec le monde périssable du visible. Deuxième remarque, je déduis aussi de ces versets qu'espérer, c'est attendre de Dieu. C'est-à-dire que espérer, c'est attendre de Dieu. Posséder, c'est avoir à soi. Donc, il n'y a rien à attendre. L'attente, c'est la condition présente du sujet croyant. Un sujet croyant, c'est nécessairement un sujet espérant. Donc, un sujet soupirant. Attendre de Dieu, soupirer après lui, c'est déjà recevoir de lui. Troisième chose, j'en déduis que attendre avec persévérance, ça ne signifie pas que l'espérance est à construire à la force du poignet. C'est l'inverse. L'espérance se dit en termes de dons gracieusement offerts, sans que nous en soyons les auteurs, comme une ouverture offerte dans le présent sur un avenir qu'on ne voit pas. La création espère. Nous espérons, et c'est maintenant au tour de l'esprit. Or, de même aussi, l'esprit vient au secours de notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Or, celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède pour les saints. Je reprends ça autrement, c'est à travers nous que l'esprit de Dieu est rendu présent. Il intercède pour secourir notre faiblesse dans cet enfantement. Il le fait en gémissant, c'est-à-dire en accompagnant nos propres gémissements. Comme la sage-femme qui accompagne le rythme de la femme qui accouche, qu'elle prend son rythme, son souffle. Ces gémissements sont inexprimables. Donc il ne s'agit pas pour l'esprit de dire quelque chose à Dieu pour nous ou à notre place. Il s'agit simplement pour lui de conduire nos gémissements, nos cris, jusqu'auprès de Dieu. L'esprit ne fait pas un travail de traducteur, il fait un travail de sage-femme. La douleur du gémissement, c'est un cri inarticulé, hors langage. Ce cri, il provient d'une réalité où la parole n'est plus possible, où il n'y a pas les mots. Or, l'esprit porte ces cris-là, nos cris, à Dieu. Dans un remarquable article intitulé « Que pouvons-nous espérer ?» du théologien Hans-Christoph Ascani. « Que pouvons-nous espérer ?» Je vous recommande vivement ce texte. Hans-Christoph Ascani note que la différence entre un optimiste et quelqu'un qui espère tient étonnamment à leur relation différente avec la parole. Il explique que l'optimiste entretient une attitude positive face à la vie qui va de pair avec une envie, dit-il, une envie irrépressible de la communiquer aux autres sous forme de sentence. Vous savez, on a tous ce genre de personnes autour de nous. Allez, un petit effort, ça ira mieux demain, tu verras. Mais non, tu verras, c'est pas un problème. Une de perdue, 10 de retrouvée. Vous les connaissez, ces sentences. Ça, c'est l'optimiste. Et dit l'optimisme, ça n'a rien à voir avec l'espérance. L'optimisme a toujours plein de paroles à disposition, plein de mots gentils à disposition, et il parle. L'espérance n'a pas les mots. Elle est dans le gémissement, elle est dans le cri, elle est dans le dépouillement. Il écrit, Hans-Christophe Ascani, je le cite, « Là où les paroles ne jaillissent pas, pas du tout, là il y a le silence. Un silence lourd, muet. » Et c'est là, dit-il, que se tient l'espérance. Le sujet est dépossédé de ses mots et c'est un autre qui vient porter la parole pour lui jusqu'à Dieu. C'est l'esprit qui fait ce travail-là. C'est l'esprit qui fait ça. Le souffle divin vient prier en nous et ce qu'il prie à Dieu se situe au-delà de nos propres paroles, de nos propres demandes. L'image que Paul utilise raconte non seulement la présence de Dieu dans l'intimité douloureuse de notre existence, mais elle dit aussi la présence de Dieu dans notre défaillance. Quand nous n'avons pas les mots, ou quand nous avons les mauvais mots, l'Esprit maintient le lien de prière pour nous. La prière dépasse le langage qui s'imagine déterminer la prière. Or, ce n'est pas nous qui prions à Dieu, c'est Dieu qui vient prier en nous. Dans la douleur de ce monde, c'est Dieu qui fait le don de sa prière. Et c'est la suite. Oui, c'est la suite de l'Épître aux Romains, toujours chapitre 8. Or, nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, toute chose collabore au bien pour ceux qui sont appelés selon son projet, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi distingués d'avance pour être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Or, ceux qu'il a distingués d'avance, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Or, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qui aiment Dieu, verset 18, sont ceux qui d'abord ont été connus de Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, c'est qu'il est connu de Dieu qui l'appelle. D'abord l'appel, pensons à Abraham, d'abord l'appel. La connaissance que Dieu a de la personne précède la réponse de la personne. Ici, on ne sait plus si la filiation est acquise ou simplement en train d'advenir. Ce qui était attendu, la gloire à venir dont il nous parlait tout à l'heure, il semble qu'ici elle soit réalisée. C'est-à-dire que ce dont il parlait au futur tout à l'heure, en termes d'attente, ici il le dit au passé. La relation entre la personne et Dieu est qualifiée par l'amour, verset 28. Cette relation d'amour, c'est le futur annoncé qui devient déjà présent. Et ce présent, c'est une réalité entièrement initiée dans le temps passé de la personne par Dieu lui-même et Dieu seul. Ces versets sont entièrement placés du point de vue de Dieu. Il s'agit de son projet à lui. Et l'espérance est précisément la confiance en la fidélité de Dieu à son propre projet, un projet qu'il mène à son achèvement. J'ai confiance en la fidélité de Dieu, j'ai confiance dans le projet de Dieu. Le projet de rendre conforme à l'image du Fils, donc de partager la forme du Fils, ce que Dieu a rendu visible de lui, c'est participer à sa gloire, c'est ça être glorifié. Toute la trajectoire de l'existence croyante, elle se dessine ainsi sous nos yeux. Dieu appelle, c'est la vocation. Dieu justifie, c'est ce qu'on appellera la justification. Et Dieu glorifie, c'est la glorification. Et vous notez tout de suite que Paul parle de l'ultime étape de la glorification au passé. Les temps des verbes ont leur importance. Paul peut dire « nous avons été glorifiés » quand il regarde à Dieu. Et puis il peut dire « nous serons glorifiés » quand il regarde à notre histoire. Dit autrement, la glorification est déjà donnée dès l'appel. C'est la conviction de Paul. Tout est donné à l'appel de Dieu. L'espérance paulinienne, parce qu'elle procède de l'événement singulier de la vérité comprise comme révélation du Christ crucifié, ressuscité, cette espérance-là ne peut être qu'une espérance à portée universelle et gracieusement reçue en don. Elle ne vise pas un but à atteindre, elle est enracinée dans la singularité de la rencontre du Christ, et en temps de crise, c'est la fidélité à cette vérité, nécessairement subjective, c'est la fidélité à cette vérité qui constitue l'espérance. Dit autrement, l'espérance, selon Paul, c'est le nom même de la conviction reçue. Et cela, il pourra, en quelques versets seulement, le résumer, le synthétiser. Paul a ce don des formules. Paul va ramasser son propos en une interpellation dont lui seul a le secret. La foi, l'espérance et l'amour disent ce mouvement vers Dieu initié par Dieu. Et on retrouvera ces versets qui reprennent le tout. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Détresse, angoisse, persécution, faim, dénuement, danger, glaive. Selon qu'il est écrit, à cause de toi nous sommes mis à mort tout le long du jour, nous avons été comptés comme des brebis de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai la certitude que ni mort, ni vie, ni ange, ni domination, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni force des hauteurs, ni celle des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, celui en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est la définition de l'espérance pauline. Je vous remercie.
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider.
Vous écoutez Radio Alliance Plus, vous êtes bien sur le 103.2 et vous savez que vous pouvez nous écouter en DAB+, maintenant, et bien sûr, allez sur notre site radioallianceplus.fr pour écouter tous nos podcasts. Vous êtes dans l'émission Dans nos communautés avec Christiane Hervaux au micro et vous avez pu entendre dans cette première partie d'émission la suite de la conférence que Céline Romer a donnée au centre du Lazaret à 7 entre le 13 et le 16 mai à l'occasion de la 5e pastorale des pasteurs à la retraite. Et donc, elle avait donné cette conférence intitulée « L'espérance en temps de crise ». À la suite de cela, vous avez entendu un chant « Tiens ma lampe allumée ». Et bien maintenant, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous rappelle que comme nous sommes en congé, nos salariés vont être en congé bientôt. Pendant ce temps d'été, vous avez l'occasion d'écouter des rediffusions de mon émission dans nos communautés. Donc à partir du 18 juillet, vous pourrez entendre des rediffusions jusqu'à au mois d'août, fin août à peu près. Voilà, bonnes vacances à vous aussi. Profitez bien, faites-vous du bien. Et nous nous redisons à la rentrée de septembre prochain.